Donc voilà, vous dire que cette habitude, elle est importante et je trouve que ça commence à devenir justement une bonne habitude. Et donc je vous propose de débuter l'ordre du jour de ce conseil municipal par la première délibération sur la construction donc d'un court de tennis couvert, d'un terrain de paddle, l'extension des locaux. Et donc c'est dans la continuité tout simplement de la délibération qu'on avait déjà passée le 16 décembre 2021. Vous rappelez peut-être, certains lots n'avaient pas été attribués. Donc on s'est réunis le 10 mars, c'est-à-dire la semaine dernière, en salle du conseil municipal. Et donc du coup, on a attribué. Alors, vous le voyez, on n'a pas attribué tous les lots justement. Hein. Il y a eu, par exemple, le lot 6 menuiserie intérieure et le lot 15 équipement sportif à des degrés différents, puisque pour l'équipement sportif, c'est plus être un petit peu malin pour voir en interne comment on peut s'organiser. L'équipement sportif, je vais vous en citer un très bête, la chaise d'arbitre. Voilà. Donc ça, on peut tout à fait individuellement acheter chaque module. Et ensuite, les menuiseries intérieures, là, c'est une autre raison, c'est tout simplement qu'il n'y a personne qui a répondu. Voilà. Donc comme ça représente, alors deux têtes, je crois que c'est deux ou trois portes. Donc on va demander aux plaquistes de réaliser cette mission. Voilà. Ensuite, donc, les différents lots qui ont été attribués, c'est la lot numéro 4, charpente, bois, couverture, zinguerie à la SRL Itoys pour 14 133,24. Le lot plâtrerie, faux plafond, isolation à l'entreprise Notelet Plâtrerie pour 10 529,74. Le lot carrelage faïence a été attribué à la SRL Buzo Patrick pour 18 000 euros. Le lot peinture a été attribué à Pau Peinture pour 5 658,98 €. Le lot sol sportif a été attribué à ST Group pour 49 151,50 €. Et le paddle extérieur a été attribué à Parc Espace pour 72 801,19 €. Donc je vous propose, comme le précise l'article 2, de déclarer sans suite les lots numéro 6 et numéro 15. Je vous propose donc de relancer une nouvelle consultation pour le lot numéro 12, qui est celui de la serrurerie, et donc d'attribuer, donc je vais peut-être pas le relire parce que c'est les montants qu'on avait vus précédemment au conseil municipal de décembre 2021. Et donc pour un total aujourd'hui de 971 142,32 € d'autoriser monsieur le maire évidemment à signer les pièces constituant le marché. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à cette délibération? Oui, monsieur Bresson, en allumant votre micro.
Oui, avant de poser ma question, j'aimerais savoir quel est le budget qui est disponible à l'heure actuelle pour cette opération. Le budget voté est disponible en 2022.
Pardon ? Je comprends pas la question en fait.
Ben, je voudrais savoir quels sont les crédits qui sont disponibles en 2022 pour pouvoir signer ces marchés. Mais, puisque c'est... le conseil municipal est en train de vous autoriser à signer les marchés.
Oui.
Donc en règle, en comptabilité publique, pour pouvoir signer un marché, il faut d'abord faire un engagement comptable, c'est-à-dire vérifier que les crédits sont disponibles, et ensuite un engagement juridique.
Oui, mais on vote le budget le 7 avril, et comme vous le savez, le conseil municipal, du coup, sur cette période antérieure au 7 avril, déclenche des crédits...
À de concurrence 25... de 400 000 euros.
Non, 25% du budget...
Oui, mais ce qu'on a voté, c'est 400 et quelques mille. Hein.
Comment ça? Qu'est-ce qu'on a voté, 400 000 euros? Ah oui, c'est le cas, oui. Oui, mais c'est 25% des investissements, donc c'est pas 400 000 euros.
Ah, c'est ce qu'on a voté dans la délibération.
Ah oui. Bon, d'accord.
Moi,
je sais pas. Moi, c'est pas. Encore une fois, monsieur Bresson, on est toujours sur le même débat. Hein. Moi, je suis maire. Je suis pas directeur général des services. Je suis pas directeur des services techniques. Et vous aussi, d'ailleurs, vous êtes élu et vous n'êtes pas directeur technique. Oui, donc, moi, je fais confiance à mes équipes sur ce sujet. Là, non, et donc, du coup, on attribue un marché.
Si vous soyez autorisé à signer le marché, ça, le conseil a tout à fait le droit de vous autoriser à signer le marché. Maintenant que vous signez le marché, ça pose un problème juridique tant que les crédits ne sont pas votés. C'est ça que je veux dire. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est juste ça.
Vous prenez votre responsabilité sur le vote, Si vous souhaitez ne pas voter cette délibération, vous la votez pas.
Ah mais ça me pose pas de problème de.
Enfin, je veux dire, non mais quel est l'objet de la
simplement vous avertir que juridiquement vous ne pouvez pas signer ces marchés, c'est tout.
D'accord.
Plus précis, vous ne pouvez signer les marchés qu'à concurrence des crédits qui sont disponibles, c'est-à-dire ceux qui ont été votés, et en l'espèce. Ce qui a été voté, c'est l'autorisation de dépenses de 400 et quelques mille euros lors de notre dernier conseil, je crois.
Oui, oui voilà, c'est ce que je pensais. Les premières factures de ce niveau supérieur à 400 000 euros n'arriveront pas avant le 7 avril, vous vous doutez bien. Oui, mais même. Donc vous inquiétez pas, Monsieur Bresson, j'entends votre remarque et on sera attentif à ce point-là, mais encore une fois, chacun sa mission, la mienne est d'être maire et élu, et les services sont là pour cela et je leur fais une entière confiance. Mais merci de votre remarque. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 6 abstentions.
J'ai une observation.
Oui.
On est en train de voter un montant d'opération de 900 et quelques mille qui figure hors taxe dans la délibération. Je souhaiterais, si possible, qu'on puisse à l'avenir mettre également les montants TTC, puisque ce que nous votons, ce sont des crédits TTC. Et aujourd'hui, on se rendrait compte qu'on est en train de voter une opération qui représente 970 000 euros, en gros 1 million, c'est-à-dire 1 million 2 TTC, alors qu'initialement l'opération était prévue à 700 000 euros. Donc ça fait un dépassement très important et je crois que c'est important aussi que les conseillers le sachent.
Alors, si pour être très précis, puisque je comprends très bien l'objectif de votre intervention, vous dire aussi que lorsqu'on a voté en décembre 2019 cette délibération, aucune prévision financière n'avait été réalisée par le maître d'œuvre de ce projet, en l'occurrence le cabinet Arcade. Donc on a fait voter au conseil municipal un chiffre qui vient de je ne sais pas d'où. Voilà. Monsieur Bresson, moi ce que je vous dis en tout cas, c'est que les informations que j'ai en ma possession et que j'ai eu en ma possession m'ont fait bien comprendre que lors de la délibération du 16 décembre 2019, ce chiffre de 770 000 euros hors taxes ou TTC, d'ailleurs, je serais bien curieux que vous me précisiez quel était le prix. Est-ce que c'était du TTC? Est-ce que c'était du hors taxes? Est-ce que c'était avec les honoraires d'architecte ou pas? Je sais pas si vous le savez. Non, mais répondez à ma question. Ne parlez pas du projet. Est-ce que c'était 770 000 TTC ou hors taxes? D'accord. Et est-ce que c'était avec tous les honoraires de l'architecte ou pas? En fait, personne. Monsieur Bresson, vous pouvez pas me répondre parce que aucune estimation financière. Allez-y, mais parlez dans le micro déjà pour que ça soit enregistré.
Alors, ce que je tiens à dire, c'est que les projets d'hier et d'aujourd'hui sont différents. Puisqu'hier, il y avait un seul nouveau terrain et il y avait la couverture d'un terrain existant.
Pas du tout. Non. Bon, Monsieur Bresson, on va arrêter là parce que je pense que, au contraire, si vous continuez à parler, vous allez vous enfoncer. Parce que. Non, mais enfin, voilà la preuve. Vous me parlez d'un projet qui n'était pas du tout celui-ci. C'était pas du tout la couverture du terrain existant.
Le projet qui a été chiffré à 770 000 euros, c'est ce que je suis en train de vous dire.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'était un projet qui comprenait un terrain supplémentaire et la couverture d'un des deux terrains existants.
Non.
Ensuite, l'opération a évolué, puisqu'il y a eu des réactions de la population, etc.
Mais alors, et à 770 000 euros,
alors
c'était quoi?
On est passé à des choses différentes.
Mais c'était quoi, à 770 000 euros? Quand vous avez présenté devant le conseil municipal ce montant-là, vous parliez de quoi comme projet?
Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'était un projet avec la couverture d'un des deux cours et un cours supplémentaire. Et ensuite, le projet a évolué. Vous savez pourquoi ? Il y a eu des réactions de la population, des rejets des projets, etc. Donc c'est normal, les choses évoluent. Aujourd'hui, on est toujours sur le même montant initial, alors que le projet a beaucoup évolué. C'est ce que je vous ai dit lors de la commission marché de l'autre jour, c'est que à l'heure actuelle, la seule délibération que l'on ait, c'est sur un montant qui n'est plus du tout conforme à l'opération. Mmh. Et je vous ai indiqué qu'il serait souhaitable qu'on redélibère de façon à pouvoir bénéficier des subventions, parce que les collectivités qui versent les subventions demandent ces délibérations.
Bon, en tout cas, les demandes de subvention ont été faites en fonction de ces montants-là et correspondent proportionnellement donc pour la DETR à 40% du coût du projet et pour le conseil départemental de tête à 36%. Bien sûr, évidemment, on attend le retour de ces deux organismes. En tout cas, ce que je précise, c'est que pour être très clair, par rapport à la délibération de 2009, effectivement, le projet a totalement évolué, mais effectivement aussi, on n'a pu que constater amèrement aussi, je le dis, parce que ça faisait plus de 2 ans que ce projet avait été traité, qu'on est reparti d'une feuille blanche, voilà, entièrement, parce que le projet n'avait ni queue ni tête, l'architecte était complètement perdu, et qu'effectivement, quand on a fait voter 770 000 euros au niveau de la délibération du Conseil, on n'avait pas du tout idée de où on allait, quelles études de sol avaient été faites, et c'est sûr qu'aujourd'hui on se retrouve avec un montant qui est en total décalage parce qu'on voit que le coût est beaucoup plus important. Donc c'est sûr que ça met un décalage avec ce montant de 770 000 euros qui avait été voté à l'époque. Oui, Didier.
Julien, avec tout le respect que je te dois, que tu dises que le projet qui était à l'époque n'est ni queue ni tête, je peux pas te laisser dire ça. Vous qui parlez beaucoup de démocratie participative, le projet avait évolué suite à une réunion en mairie à laquelle j'étais présente, avec énormément de voisins du tennis. Effectivement, les deux ou trois projets qui avaient été proposés à l'époque n'avaient pas retenu un consensus rencontré certaines oppositions. Et à partir de ce moment-là, un autre projet qui avait été envisagé au tout départ, mais qui avait été abandonné pour des raisons écologiques, de ne pas toucher aux arbres, de ne pas trop, avait fait un consensus total donc ce trois ou quatrième projet qui était à quelque chose près le projet du terrain semi-enterré que vous avez, si ce n'est qu'il était double. À l'époque, les besoins et les demandes du club de tennis étaient de deux terrains supplémentaires et il n'était absolument pas question d'un terrain de paddle à l'époque. Donc un an ou 6 mois après, les besoins ont changé. Ça, je n'étais plus là pour m'en rendre compte. Mais que tu dises que le projet n'était pas abouti, non.
Non, mais on peut être d'un avis différent, voilà, c'est mon avis en tout cas, mais je trouve que ton explication, finalement, un petit peu avec, comme tu l'expliques, 3 ou 4 projets, un autre qui a été abandonné, montre bien que voilà, il y avait un flou autour de ce projet, et je continue à dire qu'en tout cas de notre côté, il a fallu qu'on reprenne tout à zéro, et ça c'est avec le cabinet d'architecture, qu'on a gardé d'ailleurs identique, hein, on a retenu le même, et c'est moi en tant que maire qui ai vu avec les relations avec le cabinet d'architecture aussi la réalité de ce projet. Donc je vous propose de passer au vote. Non, on a voté puisque Monsieur Bresson est intervenu après le vote. Donc je vous propose de passer domaine et patrimoine à la vente de terrain communal, substitution de la SCI Médica par la SCI Apotica et la SCI Hippocrate. Donc c'est, vous vous rappelez, pour la parcelle du cabinet médical et de la pharmacie avec un petit... on va dire, oui. Contrainte particulière administrative qui s'explique, oui. Gilles Pinoche.
Oui, en fait, une petite modification. En fait, je dirais que le corps de la délibération du 27 janvier 2020 ne change pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la vente d'une parcelle pour réaliser un local, enfin, un projet médical et pharmacie, avec un parking qui est réalisé, qui est rétrocédé à la commune au prix de, moyennant le prix de vente après une estimation des domaines, estimation des travaux, et aussi l'échange avec une parcelle le long du cabinet médical actuel permettant d'élargir la voirie là où a été fait le City Stade de façon à donner plus de largeur et plus de place notamment aux piétons, aux vélos. Donc la différence elle se situe au niveau du pétitionnaire puisque la SCI Medica qui était là au départ s'est transformée en une SCI Apotica et une SCI Hippocrate. Alors bon, Apotica, bon, j'ai pas fait du latin longtemps, mais c'est la pharmacie. Et Hippocrate, le nom du célèbre serment, c'est pour la partie médecin. Voilà, vous avez le plan joint en annexe à la fois donc sur les nouvelles parcelles et sur ce plan-là et la parcelle AS198 qui s'est substituée à trois parcelles 245, 246, 247. Il était joint le plan aussi de la petite quand on va vers le City Stade, la petite parcelle à droite donc 124 qui est cédée donc à la collectivité et puis le plan là des 22 places de parking public qui donc sont rétrocédées à la collectivité. Alors bon, voilà, je vais pas relire la libération, à moins que vous me le demandiez, ce qui est toujours un excellent exercice. Mais donc, je vais vous lire quand même les attendus. Donc, article 1, donc le conseil municipal décide de donner son accord à la vente. D'abord de la parcelle AS245 de la moitié indivise, de la parcelle AS247 à la SCI Apotica moyennant le prix de 75 000 euros. De la parcelle AS246 et de la moitié indivise de la parcelle AS247 à la SCI Hippocrate moyennant un prix de 75 000 euros. Si on retrouve les 150 000 euros originels. Donner son accord en article 2 de la parcelle AS à l'achat de la parcelle AS247 moyennant un euro symbolique dès que le parking sera réalisé. D'une parcelle d'environ 150 mètres carrés à détacher de la parcelle cadastrée AS124, moyennant l'euro symbolique. Et puis, on peut rajouter aussi qu'il y a les servitudes de canalisation avec le fonds servant des parcelles cadastrées AS247 et 246 qui sont en fait donc les parcelles sur lesquelles il y aura le projet médical, et puisqu'il y aura des eaux qui vont, des canalisations qui vont partir et qui iront dans le ruisseau après rétention et un débit de fuite. Et puis le fonds dominant pour les parcelles cadastrées section AS229-230, qui sont en fait les eaux pluviales de la maison dite Plaisance, qui se rejetteront après là aussi une rétention qui sera faite sur la parcelle donc 229 de Plaisance. C'est-à-dire qu'il y aura un bassin de rétention, et c'est le débit de fuite qui ira dans cette canalisation de servitude vers le ruisseau. Donc on autorise Monsieur le maire à signer les différents actes et tout document y afférent concernant ce projet. Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint, le maire adjoint d'urbanisme, au logement, mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération et de la signature de tout document relatif à ce dossier. Voilà.
Merci Gilles. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette délibération? Bon, vous l'avez compris, il y a deux pétitionnaires au lieu d'un, c'est pour ça qu'on redélibère. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Et comme vous l'avez vu, les travaux avancent bien. On va passer sur la partie RH, création du nouveau cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux en catégorie B au 1er janvier 2022. Hervé Labadie.
Bonsoir, nous vous proposons de procéder à la création de trois postes d'agents dans notre collectivité. Tout d'abord, il convient de régulariser la situation administrative de deux agents sur des postes d'auxiliaires de puériculture territoriaux qui sont actuellement classés en catégorie C, et qui sont, conformément au décret numéro 2021-1882 du 29 décembre 2021, intégrés et reclassés dans le nouveau cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux en catégorie B, soit la création de deux postes d'auxiliaires de puériculture de classe supérieure de catégorie B. Ensuite, nous vous proposons de créer un poste d'adjoint technique territorial de catégorie C au 1er janvier 2022 en vue de nommer un agent contractuel qui a été recruté sur un poste pérenne à l'absence de candidat fonctionnaire territorial. Je précise qu'il ne s'agit pas d'embauche nouvelle, mais de régularisation. Le nombre d'agents de la collectivité sera donc de 110, donc 70 titulaires et 33 non titulaires. Cela représente 83,12 emplois à temps plein. Ces chiffres sont bien ceux qui ressortent du tableau qui a été envoyé et ne subissent pas de modifications. Toutefois, vous voudrez bien noter des modifications que je vais vous indiquer dans certains postes dues à des erreurs de frappe sur la rédaction du document. Sur le document qui vous a été adressé, parmi les titulaires, pour les ingénieurs, il faut lire un emploi temps plein. Pour l'agent de maîtrise, il faut lire deux postes pourvus, dont un emploi à temps plein. Sur l'agent technique principal deuxième classe, il faut lire six postes pourvus et six postes emploi temps plein. Et sur les agents non titulaires, il faut lire pour l'adjoint technique territorial de catégorie C des écoles un CDD de 15 heures, il faut lire 0,43 emploi à temps plein. Voilà, ce sont simples des petites erreurs de frappe qui vous sont communiquées et qui ne changent rien dans le total des agents de la collectivité.
Oui, voilà, c'est ce que je disais, le principal c'est ça.
Mais il fallait le dire parce que c'est ce document qui va paraître à l'appui.
Parfait, merci beaucoup Hervé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à cette création du nouveau cadre d'emploi ? Personne. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Là, on vous l'enverra par mail, de toute manière.
Oui, oui. Voilà. De toute façon, c'est ce tableau qui sera joint au PV. Hein. Donc, qui sera automatiquement transmis.
Le PV, il en
bien sûr.
Donc, je vous propose de passer donc aux 7 délibérations par rapport au budget. Donc, 6 délibérations par rapport au compte administratif, au compte de gestion, et ensuite le débat d'orientation budgétaire. Donc, je passe la parole à Hervé qui va vous proposer peut-être aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus pédagogique et plus continu.
On va essayer en tout cas.
Hervé Labadie.
Voilà, bien. Alors, en préambule, comme disait M. le maire, et si vous ne voyez pas d'objection, je vous propose, pour éviter les redites et autres redondances, de faire une présentation groupée des trois comptes administratifs que l'on doit étudier lors de ce conseil, puis de procéder à un vote séparé après cette présentation. S'il n'y a pas d'inconvénient. Voilà. Je vous rappelle que le compte administratif représente l'arrêté comptable et financier de la commune pour l'année écoulée. Il est établi par le service finance de la collectivité. Ce compte administratif reprend l'ensemble des opérations budgétaires, recettes et dépenses, réalisées en conformité avec le budget primitif voté. Il est soumis au contrôle du comptable du Trésor public. Il existe un compte administratif par budget voté, à savoir le compte administratif principal, le compte projet de ville et un pour les logements sociaux. Bien entendu, ces trois comptes administratifs ont été validés par le comptable public, ce qui démontre encore une fois le sérieux et la qualité du travail fourni par le service comptabilité de notre commune. S'agissant d'exercices clôturés, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais afin quand même de situer le niveau budgétaire de notre commune, je vais vous rappeler les chiffres marquants de chaque compte. En matière de compte administratif principal, qui est divisé en deux sections. La section investissement fait apparaître un montant de dépenses de 4 389 788, je vous fais grave des centimes, et les recettes 3 736 061, soit pour l'investissement un résultat négatif de 653 727. Pour la section fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 6 823 113, et les recettes à 9 321 327, soit un résultat positif de 2 498 213. Comme on peut le constater, le résultat largement positif de la section fonctionnement compense le déficit de l'investissement. Donc si on totalise les deux sections, on trouve le résultat suivant. Pour un montant de dépenses de 11 212 909 et des recettes pour 13 057 388, soit un résultat global positif de 1 844 486. Ceci confirme l'importance d'avoir une section de fonctionnement bien maîtrisée pour permettre la réalisation et le financement des investissements. Le compte administratif projet de ville n'a connu aucune opération cette année, hormis la dépense que vous avez pu noter pour 22 437,90, qui correspond au remboursement de l'annuité d'emprunt. À signaler que ce budget regroupe plusieurs programmes immobiliers et qui ne pourra être soldé qu'à la liquidation du dernier lot, tout programme confondu. Pour mémoire, il regroupe le Résigné, Gassané, Plaisance, Nord, Tonique, Lazac et Alma. Il paraît donc plus judicieux, si on désire isoler les programmes dans des budgets annexes, de créer à l'avenir un budget par programme pour un suivi individuel. Et enfin, le code administratif logements sociaux, qui permet de suivre la gestion immobilière de la commune à caractère social. Il reçoit un montant total de dépenses de 50 780,54 € et 68 550,20 € de recettes, soit un résultat positif de 17 769,66 €. Bien entendu, les recettes correspondent au loyer encaissé et les dépenses aux charges de gestion courante. En conséquence, on peut légitimement constater que les comptes administratifs soumis au vote de cette Assemblée ont respecté les opérations de dépenses et de recettes prévues dans leur budget respectif, ainsi que les décisions modificatives. Ils attestent également de la bonne gestion réalisée par M. le maire pour cet exercice 2021. Voilà, il va y avoir une petite... Voilà, donc, y a-t-il des...
Merci Hervé. Y a-t-il des questions sur ce compte administratif 2021 ? Non. Alors, comme vous le savez, peut-être le maire ne peut pas voter le compte administratif. Donc je vous propose de nommer Hervé Labadie en président de séance pour ces trois votes. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Et je vais vous quitter quelques minutes.
Voilà, c'est pour éviter de faire faire trop de gymnastique à M. le maire qu'on a tout regroupé. Bien, nous allons maintenant passer au vote en ce qui concerne le compte administratif du budget principal. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Oui, non ? Non ? D'accord. Bien. Alors, trois... Oui, il s'abstient. D'accord. Donc, 6 abstentions. Concernant le vote pour le compte administratif projet de ville, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 6 abstentions. Et enfin, concernant le compte administratif 2021, pour les logements sociaux, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 6 abstentions. Je vous remercie et on peut lâcher sur le maire. Voilà.
Merci Hervé. Et donc, je propose d'enchaîner sur le compte de gestion 2021, toujours pour le budget principal, le budget annexe projet de ville et les logements sociaux. Hervé.
Bien, alors pour le compte de gestion, je vous propose de procéder de la même façon. Je vous rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes de la collectivité sur une année, sauf que ce compte de gestion est tenu par le comptable public. Il y a autant de comptes de gestion que de comptes administratifs. Il est présenté sous une forme différente du compte administratif, car il comporte une balance générale de tous les comptes, ainsi qu'un bilan comptable de la collectivité et un compte de résultat, contrairement au compte administratif où il y a une section fonctionnement et section investissement. Il décrit de façon synthétique l'actif et le passif de l'établissement. Pour autant, les masses et les résultats sont identiques et vous avez pu constater sur les documents qui vous ont été fournis la stricte concordance des deux documents, compte administratif et compte de gestion. Je ne vais donc pas vous abreuver là non plus de chiffres et je pense que nous allons pouvoir passer tout de suite au vote si monsieur le maire est d'accord.
Alors, en commençant donc par le budget principal, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous... 6 abstentions sur le budget principal. On peut enchaîner sur le projet de ville. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 6 abstentions, merci beaucoup. Et sur les logements sociaux, qui est contre ? Qui s'abstient ? 6 abstentions également. Merci beaucoup Hervé Labadie. Donc, pour terminer cette partie, même s'il y aura une petite partie en point d'hiver numéro 25, la délibération numéro 24 sur le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été fourni donc avec l'envoi de son conseil. Tout d'abord, je voulais souligner la qualité et la complétude de notre rapport d'orientation budgétaire. C'est un document qui est dense, mais précieux pour l'ensemble des élus de ce conseil municipal. Je voulais remercier le directeur général des services pour la qualité de ce travail, remercier l'ensemble des services finances pour également la qualité de ce rendu. C'est toujours un moment stressant. Un budget municipal hein, pour les services. Il faut avoir en tête que les finances des collectivités locales, c'est beaucoup de contraintes qui s'additionnent et du coup chaque budget finalement on repart presque à zéro. Donc il faut se dire que toute cette période était particulière pour les services. C'est un document donc qui se veut pédagogique, qui permet à l'ensemble des élus de ce conseil municipal de débattre et de réfléchir ensemble sur le cap et les orientations à la fois des projets, à la fois du budget qu'on donne pour cette année 2022, mais finalement aussi pour les années à venir pour ce conseil municipal et pour notre ville. Et c'est ce débat un moment clé de la vie municipale et de la vie de ce conseil municipal. Pour débuter nos échanges, je vous propose de partager quelques réflexions sur ma vision de cette stratégie de projet et financière de la collectivité. Tout d'abord, pour vous dire que, comme beaucoup de collectivités de notre échelon, on a forcément des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire le quotidien de la collectivité, qui augmentent plus vite que les recettes. Ça veut dire également que je vais vous citer quatre axes principaux au niveau de ma vision de la stratégie financière. L'un des axes principaux sera de pérenniser l'autofinancement en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. Voilà. Le second axe, c'est que je vais vous proposer le 7 avril 2022, pardon, de garantir une nouvelle fois les taux, la stabilité des taux de fiscalité, de ne pas augmenter les taux de notre fiscalité propre. Ensuite, je vais vous proposer évidemment d'assumer toujours une capacité élevée d'investissement. Qu'aujourd'hui, notre commune en a besoin, et parce que, il me semble, et on va l'aborder tout à l'heure, les projets structurants doivent se concrétiser dans les années à venir sur Saint-Martin, et parce qu'aussi, aujourd'hui, l'État nous passe un message fort qui est qu'il sera au soutien sur l'investissement, mais pas forcément sur le fonctionnement. Et le dernier pavé, en lien intime, forcément avec l'investissement, c'est l'endettement. Donc on devra assurer un endettement maîtrisé pour notre collectivité. Pour ce budget 2022, notre cap est clair. Le premier axe, être la priorité au projet qui crée du lien. Ce fameux lien qui nous a tant manqué depuis le début de cette crise sanitaire et depuis finalement le début de ce nouveau mandat pour ce conseil municipal. Le deuxième axe pour 2022, c'est le début des premiers projets structurants pour la commune après les premiers mois d'études. Je vais parler de l'agrandissement de la médiathèque, je vais parler du centre technique municipal et je vais parler du tennis couvert qu'on vient d'évoquer. Prioriser les projets qui créent du lien, c'est soutenir tout d'abord le sport et la culture. Parce que ces deux leviers principaux sont forcément importants sur Saint-Martin, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tennis couvert et l'agrandissement de la médiathèque, et par aussi le soutien au niveau du monde associatif. Nous devrons, en 2022, soutenir encore plus fortement ce milieu associatif. On l'abordera d'ailleurs dans les subventions municipales, mais ça passe aussi, comme vous l'avez vu dans les dernières pages de ce rapport d'orientation budgétaire, par des travaux sur les bâtiments associatifs pour les renforcer et les améliorer. Enfin, l'enfance-jeunesse, quand on parle de lien, forcément sera un axe prioritaire, avec à la fois des travaux sur les structures enfance-jeunesse de la commune. Je vais évoquer notamment un chantier que vous avez déjà vu débuter, c'est les peintures du centre de loisirs, mais également des travaux importants, par exemple, sur l'école maternelle Pauline Kermomar. En second axe, il sera important de positionner l'environnement au cœur de nos décisions. Lors du précédent conseil municipal, nous avons voté un agenda 2030 qui va nous donner forcément des actions importantes pour les années à venir sur Saint-Martin-de-Seignanx. Un parc paysager à Péchy-Oulemaos à proximité du tennis couvert sera créé. Un sentier nature à Alma sera terminé. Et évidemment, les mobilités douces, comme on va le voir à la fin de ce conseil municipal avec tout ce qui concerne les déplacements vélo pour les enfants, mais aussi évidemment les carapates et la fin de certaines voies vertes, seront au cœur de cette année 2022. L'accompagnement des plus fragiles sera toujours une constante. Vous vous rappelez que nous avons augmenté le budget du CCAS en 2020 et que nous souhaitons maintenir cet effort. Accompagner notamment les plus jeunes dans cette période si compliquée que nous sommes en train de vivre. L'aide au permis de conduire, l'aide à la mobilité et l'aide à la pratique associative seront donc maintenues, voire renforcées pour certains. Je parle notamment du permis de conduire qui connaît un fort succès et également sur la mobilité géographique. Alors, quand je parle de mobilité, c'est surtout de la mobilité, par exemple, pour accompagner des projets étudiants. Il y a deux Saint-Martinois qui sont partis, là, avec des retours d'expérience qui vont être très intéressants pour les deux. Donc, c'est un point important. C'est évidemment également imaginer le Saint-Martin de demain. L'étude urbaine que nous avons lancé maintenant il y a plusieurs mois et dont Gilles Penoche s'occupe avec force, se poursuit avec, au fur et à mesure, des axes qui s'avancent et se précisent. J'en vois trois. Des aménagements publics qui favorisent la rencontre. Un habitat accessible à tous et de qualité, avec notamment un effort qui sera très important sur les logements sociaux. Et des exigences également auprès des promoteurs. Et troisième axe, évidemment, pour le Saint-Martin de demain, c'est respecter l'ADN naturel de notre village, avec évidemment une zone forestière, naturelle et agricole forte qu'on se devra de prendre en considération. Enfin, sur 2022, ce budget vous propose, notamment sur son aspect voirie, de prendre une attention importante sur l'arrivée de Chronoplus et des lignes Tchitchak à partir du 4 juillet 2022, puisque des aménagements sur certains arrêts, qui serviront d'ailleurs également à sécuriser certains points de la commune, et c'est important, vous seront proposés dans ce budget 2022. On le voit donc, les premiers projets structurants arrivent à maturité. Comme je l'ai dit, le tennis couvert, l'agrandissement de la médiathèque et le centre technique municipaux qui commenceront ou finiront en 2022, notamment pour le tennis couvert, ont débuté, viendront ensuite, conforme à notre projet pluriannuel d'investissement, la réhabilitation de la chapelle du quartier neuf, la résidence intergénérationnelle, la salle Camiade, l'espace sportif et notamment un deuxième terrain synthétique, et l'extension de l'école Jean Jaurès. Donc voilà, voilà un petit peu en préambule quelques axes forts de ce budget 2022 et des années à venir. Et je laisse la parole au débat pour des interventions. Alors je vois Philippe qui demande la parole. Marina, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Jos Salmon. On va laisser commencer Marina. Gilles, voilà.
Voilà. Oui, effectivement, donc tu parlais du projet d'agrandissement de la bibliothèque, hein, donc il s'agit là de la future médiathèque de Saint-Martin. Ça reste un projet important pour nous là sur notre mandat. Il s'agit d'un projet d'équipement culturel structurant. Concrètement, on est parti d'un diagnostic critique, hein. Saint-Martin a connu une forte dynamique démographique ces dernières années. Et il nous semble évident que notre bibliothèque actuelle doit se moderniser et s'adapter aux besoins des administrés. Nous souhaitons qu'elle offre un service riche et diversifié. On souhaite faire de cette médiathèque un lieu de proximité. Tu parlais tout à l'heure des projets qui font du lien. Que ce lieu soit un espace de rencontre, un lieu multigénérationnel. Donc pour nous, ces axes-là sont essentiels. Et l'année 2021 a permis de lancer les premières réflexions sur ce dossier de médiathèque. En inscrivant ce projet au budget, on espère, voilà, que l'année 2022 permettra de concrétiser le lancement de la médiathèque.
Merci Marina. Philippe.
Ouais, donc moi je voulais aborder quelques points, et notamment après avoir rencontré un nombre important d'associations de Saint-Martin. Il est important de maintenir, voire d'augmenter le soutien de la municipalité à nos associations qui sont une richesse et qui sortent à peine d'une crise sanitaire et des difficultés donc liées au Covid. Donc nous allons les soutenir et les aider à relancer la machine. C'est un point très important pour nous. On a déjà mis en place les élus référents de quartier, les conseils des avant-projets immobiliers, les conseils citoyens participatifs, le budget participatif, dont le deuxième est en cours de lancement. Et là, je me réjouis de la concrétisation cette année de l'instauration du conseil municipal des jeunes, qui va favoriser la participation active de nos concitoyens à la prise de décision. Et ça traduit concrètement notre volonté exprimée dans notre programme. Après, il y a un troisième point que je vais aborder, même s'il a déjà été longuement discuté tout à l'heure, c'est le projet du tennis couvert. Et moi, je me félicite qu'après trois conseils participatifs citoyens, des rencontres régulières avec le tennis club et l'ensemble des riverains, nous ayons réussi à concrétiser un projet de tennis couvert qui fasse consensus. Et j'y reviens malgré tout, sachant qu'on partait, il faut en avoir conscience, d'une page quasi blanche. Et je maintiens les propos que M. Levert avait tenus pour avoir assisté dès le départ de la mise en route de ce projet, quand on a rencontré la société en charge de l'étude de ce projet, il n'y avait rien de concret. C'était un chiffrage tout à fait aléatoire sur des idées et autres. Donc je maintiens que c'était une page quasi blanche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur...
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, Jos?
Bien, moi je voudrais aussi me féliciter sur ce budget de la part faite au déplacement. Comme vous le savez, 2022 sera marqué par l'arrivée de Chronoplus, ce qui va entraîner donc la mise en place d'arrêts bus, comme l'a dit Monsieur le maire, mais surtout le lancement de quelques études. Des études notamment pour l'aménagement du terminus à Gourny, avec des parkings de covoiturage et aussi un parking relais donc pour ces emprunteurs du bus et qui permettra notamment aux communes de l'est du canton de prendre le bus pour aller sur le BAB. L'aménagement aussi, pour terminer, du petit tronçon qu'il reste de voie douce à faire jusqu'à Gogny, ce qui permettra d'aller donc à l'aire de sport, mais aussi à l'arrêt de bus. Et la continuité des voies douces, après avoir terminé la mise en séparatif du lotissement Bellevue, c'est la fin de Grandjean pour rejoindre la route Océane. Et sur la route Océane, la part importante aussi de voie douce qui va être réalisée entre Souspos et le Château Rouge, avec au Château Rouge la mise en place d'arrêts bus, ces arrêts bus qui vont servir pour les navettes des plages, pour aussi les transports scolaires, pour la future aussi boucle Bayonne-Hondres-Saint-Martin aussi. Voilà. Et aussi le lancement d'une voie douce qui pourra se faire sur la 817 de Pétiole jusqu'au Petit Poune. Je me réjouis de tout ça parce que pour moi tout ça va permettre aux Saint-Martinois de pouvoir se déplacer de n'importe quel coin de la commune, quasiment, vers les services, vers les commerces, vers aussi les emplois, qu'ils soient à Bayonne ou sur les différentes zones d'activité de la commune. Et à l'heure où l'essence et le gasoil dépassent allègrement les 2 euros, je pense que pour certains foyers saint-martinois, ça peut quand même représenter quelques économies. C'est pour ça que je me réjouis de ça.
Merci Joss. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Gilles?
Oui, bon, il y a beaucoup de choses ont été dites. Bon, je voudrais revenir juste un peu sur l'étude urbaine. Bon, tu as rappelé, Julien, les trois axes des équipements publics et bon des cheminements justement qui permettront aux gens de se rencontrer. C'est-à-dire, il va s'agir de densifier notre centre-bourg, de densifier notre ville pour respecter à la fois bon certaines réglementations nationales, pouvoir répondre aussi à notre programme local de l'habitat ambitieux, et puis pouvoir aussi avoir une action forte sur les mobilités douces, et notamment, bon, Joss l'a rappelé, mais monsieur le maire aussi, sur l'arrivée du bus et sur Chrono Plus le 4 juillet, avec, bon, on peut peut-être le préciser, Julien, le cadencement, puisque on est sur un aller-retour par heure, et le matin de 7h à 9h et le soir de 17h à 19h, deux allers-retours par heure, et avec aussi un certain nombre de lignes qui pourront à un moment donné aller jusqu'à la place des Basques, et d'autres lignes qui s'arrêteront à Leclerc pour faire le changement avec la T1, qui avait le tramway T1. Je pense que c'est important parce que cette ligne de bus qui va de Gogny au Bourg, au quartier Neuf et à Bayonne va structurer, va être, comme je dis souvent, une sorte de colonne vertébrale de notre développement urbain. Et disons que construire à la fois des équipements publics, des commerces et du logement qui soit à la fois social, et on est sur 30%, mais on a vu que aujourd'hui on s'est mis d'accord sur le fait que ce sera 30% de logement social locatif, mais qu'on va s'accorder une part supplémentaire à déterminer encore, à discuter sous ensemble d'accession sociale, notamment en bail réel solidaire, pour permettre aussi aux jeunes et peut-être aux moins jeunes de la commune de pouvoir accéder à la propriété avec cette nouvelle façon de faire. Donc je pense que voilà, construire autour de la ligne, aménager autour de la ligne, je crois que ce sera très très important pour préserver aussi les espaces naturels et agricoles de notre collectivité. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je prendrai quand même deux projets qui sont en train qui pourraient avancer rapidement. C'est un, le centre technique municipal, puisque on l'avait vu lors d'une dernière délibération, mais on s'est mis d'accord avec le conseil départemental, avec la communauté de communes, pour pouvoir donc faire ce centre technique municipal, multi-collectivité, avec de la mutualisation sur les voiries et certains équipements à Gogny, à côté de Mirande, et regrouper ainsi à côté de Mirande l'ensemble des services techniques et d'urbanisme. Et puis la résidence intergénérationnelle, j'étais aujourd'hui à Mont-de-Marsan pour la signature de la convention partenariat public-privé entre les promoteurs de la Fédération des promoteurs immobiliers et tous les bailleurs sociaux du département. département, sous la présidence de Xavier Fortinon. J'ai donc pu rencontrer Marilyn Perron, d'XL Habitat, avec qui va être maître d'ouvrage de cette résidence intergénérationnelle. XL Habitat a voté le principe de réalisation de la résidence intergénérationnelle. Le programme est en cours d'élaboration et je ne doute pas qu'au prochain conseil municipal, on pourra donner quelques informations quant à l'avancée de ce projet qui sera en partenariat avec l'ESAT Château Rouge et le foyer des jeunes travailleurs dénommé aujourd'hui Habitat Jeune Sud-Aquitaine, si je ne me trompe pas. Voilà un petit peu le cadre. Voilà.
C'est ça. Oui, monsieur Bresson.
Monsieur le maire, vous avez parlé dans votre présentation d'un effort particulier qui sera fait en ce qui concerne l'habitat social. Je crois qu'on ne peut que s'en féliciter, et notamment en raison des contraintes qui, à ce jour, existent toujours à l'échéance 2025 et qui devraient, si elles sont maintenues, fortement pénaliser les collectivités qui ne respectent pas les quotas de la loi SRU. Donc c'est une bonne chose. Par contre, j'attire votre attention sur les erreurs qui ont été commises, y compris parfois à Saint-Martin, sur la concentration de l'habitat social et son expulsion, si je peux me permettre d'autoriser ce terme, du reste de la société communale. La mixité de l'habitat social et de l'habitat traditionnel est quelque chose de fondamental pour le bien vivre dans une commune. Et donc il est souhaitable que si on fait effectivement un effort particulier, à l'heure actuelle, on est à 30% d'obligation de logements sociaux dans chaque opération au-delà d'un certain nombre de logements. Si ce chiffre, pour respecter ce qui vient d'être dit, les engagements pris par la commune sur des documents qui nous dépassent, si ce chiffre doit être porté à des montants supérieurs, je crois qu'il faudra être extrêmement attentif à éviter cette concentration d'habitat social. Je dis pas ça en termes de rejet, je dis ça pour une insertion de ces populations-là au sein de notre communauté. Et ensuite, j'ai simplement une question. Vous avez parlé, monsieur le maire, du début d'opération des ateliers municipaux. Ma question est la suivante. Est-ce que cette opération se monte en opération combinée avec le département? Ou est-ce que cette idée d'avoir des ateliers communs entre le département et la commune est abandonnée?
Ni l'un ni l'autre, entre les deux. C'est-à-dire que on n'aura pas de bâtiment vraiment partagé avec le département, mais par contre il y a quand même une collaboration avec le département sur certains sujets. Oui, à côté des pompiers, c'est ça. Par exemple, je vais citer un point qui a été très important pour nous, c'était les voies d'accès. Pas multiplier les voies d'accès et du coup de mutualiser les voies d'accès. On a essayé de travailler avec eux sur le parking, on a essayé de travailler avec eux sur l'aire de lavage, voilà, plein de... Oui, voilà. Donc voilà, c'est en tout cas... Voilà, on est. Je cache pas que la venue de Xavier Fortinon sur Saint-Martin-Seignanx il y a quelques mois nous a bien aidé, parce que qui voit concrètement, puisqu'on l'a amené sur le site, et c'était aussi l'un des motifs de l'invitation que je lui avais donné. Donc c'était précieux aussi pour nous, et ça nous a fait bien avancer le sujet.
En matière de pistes cyclables, la communauté de communes a refusé, il y a quelques années maintenant, de prendre la compétence, sauf en dernière minute sur certains itinéraires. Je pense qu'il serait souhaitable que, je le dis pour les élus qui sont nos représentants au sein du conseil communautaire, je pense qu'il serait souhaitable que, au moins en termes de planification, la communauté de communes puisse prendre cette compétence, même si la réalisation ensuite reste au niveau des communes, tout simplement parce que ça permet d'obtenir de meilleures aides de la part des collectivités que quand c'est une opération communale. Tarnos en sait quelque chose, hein, puisque ils ont souhaité réaliser sous leur maîtrise d'ouvrage leur piste cyclable et malheureusement, pour tout le monde, hein, ils n'ont pas pu bénéficier d'aide à hauteur de ce qu'ils espéraient. Je crois que c'est un enjeu, ça a été souligné, c'est un enjeu majeur compte tenu de la crise énergétique qu'on connaît, mais pas simplement de cette crise énergétique, également compte tenu des enjeux environnementaux. Et je crois que sur Saint-Martin, on a des atouts formidables. C'est un réseau de voiries qui est tout à fait exceptionnel et qui peut parfaitement être utilisé dans le cadre de liaisons cyclables entre les différents quartiers. C'est simplement une question de signalisation, mais également de planification, mais de mise sur plan de ce dont on peut disposer pour se déplacer de façon cyclable et de façon sécurisée. Donc voilà, je pense que ça devrait être vu sur un ensemble cohérent au niveau de l'ensemble du Seignanx. Si ça ne peut pas être le cas, je pense qu'il faudrait que la commune se lance dans ces études-là, parce que ce sera profitable à tout le monde.
Je vais te laisser aussi le premier vice-président chargé de la communauté de communes répondre sur les mobilités douces. Moi, je voudrais revenir sur le logement social et les remarques pertinentes de Maille-Bresson. Bon, la loi SRU, dont deux communes dans le canton font partie, Tarnos et Saint-Martin-de-Seignan, c'est une loi de 2000 d'un ministre qui s'appelait Jean-Claude Guessot, qui était quelqu'un de remarquable et qui a eu le courage à l'époque d'imposer un quota de logement social. Pour vous dire quelque chose, entre 2000 et aujourd'hui, la ville de Paris, on dit qu'il n'y a pas trop de logement social, mais elle a atteint son quota avec cette loi. Bon, je rappelle toujours qu'on a 70% de la population qui est éligible au logement social, et si aujourd'hui on concentre des populations paupérisées dans le logement social, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres. En fait, évidemment que quand Virginie Darumerlou est absente aujourd'hui, mais quand on parle des commissions d'attribution aujourd'hui, que ce soit HSA, AXL Habitat ou au COL, on voit bien que la demande est telle par appartement qu'évidemment on prend les plus précaires, notamment des gens qui habitent dans leur voiture. On a eu un cas sur Saint-Martin, et je sais que bon, sur les communes du Pays Basque et du sud des Landes, c'est le cas. Donc il y a cette problématique-là qui est très importante, et que même si on répond, beaucoup de ménages répondent au logement social, on ne peut pas tous les accueillir. Après, sur l'autre remarque de la mixité, elle est très importante, et c'est pour ça que je pense que le logement social évolue, et à travers notre étude urbaine, on évolue aussi. C'est-à-dire que on aura l'occasion d'en reparler, mais on s'est pas dit que on ferait de la mixité à la parcelle. C'est-à-dire que quand vous avez un immeuble de 50 logements, si on fait 30%, il y a 15 logements sociaux. Si aujourd'hui c'est un seul immeuble, on va avoir une cage d'escalier ou deux cages d'escalier, on va voir les gens dans le même immeuble mais dans des conditions de mixité qui sont pas satisfaisantes. Le parti pris qui a été retenu pour notre étude urbaine, ça a été de travailler au secteur. C'est-à-dire, en sectorisant, on aura des immeubles qui seront dédiés à l'accession sociale, d'autres qui seront à l'accession sociale, accession libre, d'autres dédiés au logement social, avec une cohérence architecturale avec notre architecte en chef et notre paysagiste conseil, un peu, en fait, je reviens toujours un peu à ça, à Maisonnave. C'est-à-dire qu'à Maisonnave, quand on voit les projets de Bouygues, de Fresseline et ceux d'Habitation Atlantique, bon, quand on rentre, bon, aux peintures près, parce que depuis le temps, il y a peut-être des niveaux de peinture qui sont à faire en fonction des différents investissements, mais on voit pas la différence. Donc on va rester dans cette logique-là, c'est-à-dire de faire de la mixité, mais ne pas mélanger forcément les gens dans un même immeuble. Voilà. Ça, c'est une ligne de conduite qu'on va s'attacher à mettre en place.
Je pense que c'est une erreur, parce que quand je pensais à Saint-Martin, où des erreurs ont été faites, je pense que Maisonnave est justement une des erreurs faites par Saint-Martin. Alors, je veux dire, alors pourquoi je dis que c'est une erreur? Non pas parce que ces populations-là sont à rejeter, encore une fois, hein, c'est pas le sens de mon propos, mais on a un turnover de ces populations qui est extrêmement important. Et en fait, on se rend compte que plus les gens bougent sur un quartier, et moins ils ont de respect pour ce quartier. Et ce qui me paraît important, c'est de limiter ce turnover en ayant une mixité. Alors, toi, tu as parlé de mixité à la parcelle. Moi, je parle de mixité au bâtiment. C'est-à-dire que l'idéal serait d'avoir un logement collectif, un logement classique, un logement classique au-dessus d'un logement social, etc. Alors, je sais que ça pose des problèmes aux gestionnaires de l'habitat social, mais à tout problème, il y a une solution. Et c'est peut-être une question simplement d'examen et de partage des budgets pour arriver à ce type de solution. Parce que je pense que l'insertion de personnes défavorisées serait bien meilleure s'ils étaient sur un palier avec des gens qui ont les moyens de vivre et non pas dans un bâtiment et encore pire dans un quartier.
Il est certain que je par expérience en plus, puisque j'ai travaillé un peu en logement social et aussi dans la promotion privée, et ça a été une des discussions qu'on a eues encore à midi, et notamment à table avec Muriel Boulmier, qui est la conseillère régionale, mais qui est aussi présidente de l'Union sociale de l'habitat pour la Nouvelle-Aquitaine, et justement dans le travail de rapprochement entre les bailleurs sociaux et les promoteurs, pour arrêter de se regarder en chaîne de faïence, mais de travailler tous ensemble sur cette problématique du logement. Les expériences qui ont été réalisées dans ce que tu dis ont toutes été un échec, et pas forcément parce que les bailleurs, ils n'ont pas envie de s'embêter. Déjà, il faut savoir que le taux de vacance dans le logement social, dans notre région, il est très faible. Alors, il est très fort à Pau. Moi, je me souviens quand je travaillais à Pau, quand tu construisais 20 logements neufs, eh bien, tu avais 20 logements anciens qui se vidaient, et le bailleur se retrouvait avec une résidence qui était à réhabiliter, où il y avait personne qui voulait aller. Donc, je pense que je suis sûr, le taux de vacance du logement social ici, il est très faible. Et moi, je pense que Maisonneuve, justement, à ce niveau-là, c'est une réussite. Et c'est une réussite aussi. Pas parce que ça a été fait parce que à l'époque j'étais fonctionnaire territorial dans cette collectivité, mais je crois aussi que c'est les élus, ils avaient eu la vision de ce que pouvait justement être l'apport de cette nouvelle population. Et surtout un travail important sur les espaces publics, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important? C'est pas tellement si on monte un étage ou deux étages. Le tout, c'est qu'à un moment donné, c'est quand on redescend, quand on se retrouve en bas, il y a un espace de jeu pour les gamins, il y a des chemins piétons. Il y avait à l'époque, je le rappelle, et je le vois aujourd'hui, je regrette un peu, on peut faire autrement, il y avait un EHPAD où il n'y avait pas de clôture, et il y avait des échanges. Alors aujourd'hui, évidemment, avec les nouvelles problématiques, c'est plus difficile, mais je pense que il y a deux choses qu'il faut faire. C'est, un, il faut faire des logements de qualité. Comme je l'ai dit souvent, on ne peut pas demander aux gens maintenant de revenir sur leur projet de vie qui est un pavillon avec du terrain qui va être de plus en plus difficile à mettre en place, et ne pas être très fort sur la qualité du logement. Les vis-à-vis, le balcon, les orientations, tout ça, il va falloir le travailler. Et après, il faudra qu'on soit très, très, très exigeant. Et Julien l'a rappelé, c'est sur les espaces publics. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, le vivre ensemble, il ne sera pas dans les appartements. Et franchement, toutes les expériences qui sont faites sur un mélange, ce qu'on appelait, nous, un logement social à la cage d'escalier, n'ont pas marché. Franchement, ça a été toujours très compliqué.
Excusez-moi, je voulais juste revenir sur votre intervention. Moi qui suis référent du quartier de Maisonneuve, justement en allant donner les colis de Noël. Mais je peux vous dire que les gens, ils sont vraiment, ils aiment bien leurs voisins propriétaires, d'être tous ensemble. Ils font quand même des petits, depuis 2 ans, non, mais ils font des petits apéros aux voisins, entre locataires, entre propriétaires. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec vous, pour y aller, quoi, et pour les rencontrer. Moi, je trouve vraiment que c'est vraiment un quartier, je trouve qu'il est très, très bien fait.
Du coup, on s'est éloigné du second aspect sur les pistes cyclables. Juste, je voulais, j'y pense. Oui. Juste une précision quand même, qui est importante, notamment pour Saint-Martin-de-Seyens en 2022, puisque c'est une actualité un zoom sur ce budget 2022. C'est que la communauté des communes a validé un schéma cyclable communautaire, qui nous permet aujourd'hui d'avoir sur Grandjean ou sur d'autres itinéraires demain, je vais évoquer le prochain itinéraire après Saint-Martin-Andre, c'est Saint-André-Saint-Martin. Et ça c'est acquis. et ça nous permet, et aujourd'hui sur la commune de Saint-Martin, une fois que cet itinéraire Saint-Martin-Andre sera terminé, que Grand Champ sera terminé, et comme l'a dit Joss Salmon, nous on a quand même une problématique un peu différente sur la D817, mais il faut qu'on y mette toutes nos forces, c'est vrai que nous on sera arrivé au bout de quelque chose au niveau des itinéraires. Après je rejoins, puisque tout à l'heure Alain Labadie dans la présentation du Conseil des Sages a évoqué une mission que je souhaitais confier aussi au Conseil des Sages, c'est le métro minute, et c'est exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire valoriser ces trajets de mobilité douce pour qu'il y ait une carte qui permette de sensibiliser les habitants sur voilà combien je mets pour aller, mettons, à la poste du bourg à pied ou à vélo, voilà, et d'avoir une carte qui valorise ces déplacements doux. Ça c'est évidemment un lien important avec les habitants qui sont en attente de tout ça. Moi je le redis encore une fois, je sais pas si je l'avais déjà dit en conseil municipal, depuis que je suis maire, je n'ai aucun administré qui m'a demandé du parking. Par contre, les pistes cyclables, tout le monde. Voilà. Tout le monde me parle de vélo, de promenade, mais par contre, de parking, personne ne m'en parle. Donc comme quoi, la société civile nous rattrape vite dans nos objectifs. Je vous propose, alors, vous savez la particularité du débat d'orientation budgétaire, c'est que on va simplement voter comme quoi on prend acte qu'il a eu lieu, hein. C'est une particularité depuis quelques années de cela. Donc je vous propose simplement de prendre acte. Je vous remercie pour la qualité des débats, parce qu'on a abordé beaucoup de d'enjeux très importants. Et donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ce débat. On va passer donc à la délibération suivante, qui est la délibération sur la créance irrécouvrable à inscrire au compte 6642 du budget principal de la commune. Ça a l'air passionnant, Hervé, tu vas nous décrire ça.
Alors, en tout cas, c'est indispensable. Voilà, nous devons procéder à une régularisation comptable en constatant en perte sur créance irrécouvrable, le compte 6542, la somme de 320,80 € correspondant à une dette contractée par un administré. Elle correspond à des titres de redevance d'assainissement, de taxes de modernisation de réseau et de la cotisation aux jardins familiaux restés impayés. Tous les recours de recouvrement ont été épuisés par le comptable public. Il convient d'éteindre cette dette qui a été comptabilisée en produit dans le compte de la commune. Nous vous proposons donc d'admettre la somme de 320,80 € en créance éteinte.
Merci beaucoup Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On va passer donc à la avant-dernière délibération numéro 26, formation savoir rouler à vélo pour les élèves des écoles publiques communales. On parlait des mobilités douces, voilà un beau sujet, Stéphane Maton.
Donc bonsoir à tous. Donc le plan vélo a été lancé en 2018 par le ministère de la Transition écologique. Ce plan, il a pour objectif de garantir le savoir rouler en vélo pour tout élève qui rentre au collège. Nous considérons que dans le cadre de notre politique de développement des mobilités douces, le déplacement en vélo, y tient une place prépondérante. Dès lors, il nous paraissait indispensable de mettre en place des moyens pédagogiques et éducatifs envers les scolaires de notre commune. Nous souhaitons nous inscrire dans le dispositif Savoir rouler à vélo, qui vise l'apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour les élèves. Donc cet apprentissage se déroule en trois étapes. 1. Le savoir pédaler. 2. Le savoir circuler. Et la finalité, donc, le savoir rouler à vélo. Donc nous avons choisi de collaborer avec l'association Terre Buissonnière, qui est déjà impliquée dans le dispositif MOBI, et qui est bien sûr agréée pour cette formation. Donc aussi, je vous propose la délibération suivante, organiser le savoir rouler à vélo pour l'ensemble des élèves des écoles élémentaires avant le passage au collège, de valider le devis de l'association Terre Buissonnière pour un montant de 3 780 € pour 73 élèves de CE1 sur le programme Savoir pédaler et 64 élèves de CM2 sur le programme complet Savoir rouler en vélo. Et d'autoriser Monsieur le maire à engager la commande et signer tout document dès sortie du décret d'application permettant le financement par les certificats d'économie d'énergie.
Merci. Voilà, encore une belle délibération. Ça fait plusieurs qu'on passe sur les mobilités douces. J'en profite pour informer le conseil municipal qu'il va y avoir une nouvelle matinée TOTS NBC. Matinée sans voiture, donc un dimanche fin mai, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer? J'ai un peu peur de dire 29 mai, mais je crois que c'est ça. 29 mai 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette délibération? Savoir rouler à vélo, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette délibération. Et donc, avant de terminer ce conseil, je vous propose d'étudier donc la subvention exceptionnelle que je vous propose de voter pour venir en aide aux civils ukrainiens touchés par la guerre. Évidemment, vous avez malheureusement suivi tous cette actualité dramatique depuis quelques jours. Je vais en profiter quand même pour la lire, la délibération, parce que c'est un moment forcément particulier que nous vivons en Europe depuis quelques jours. Considérant que l'on ne peut que condamner fermement la guerre qui conduit actuellement la Russie à l'encontre de l'Ukraine, en violation de toutes les lois internationales et du respect de la souveraineté d'un pays, considérant qu'en de pareilles circonstances, ce sont d'abord et surtout les populations civiles qui souffrent, obligées de fuir leur pays, ou qui, y restant, se trouvent souvent sans produits et matériels de première nécessité, considérant que l'on ne peut que faire preuve de solidarité envers ces personnes comme envers toutes celles qui subissent d'autres conflits ou persécutions dans le monde, considérant que la commune de Saint-Martin, afin de répondre concrètement aux besoins des Ukrainiens réfugiés ou restés sur place, a relayé sur le terrain une collecte de produits de première nécessité organisée en lien avec la protection civile. Il y a d'ailleurs eu, entre le 7 et le 11 mars, 1340 kilos de produits d'hygiène, de santé et logistique qui ont été triés par les services et les élus, puis amenés à la protection civile à Souston vendredi dernier. Trois fourgons des services techniques étaient pleins. Considérant que la commune est en lien avec les services préfectoraux pour recenser les offres d'hébergement pour les potentiels réfugiés qui arriveraient sur la commune, une famille étant logée à ce jour via un lien familial et amical avec, et plusieurs offres de particuliers étant en attente. Juste une précision pour vous donner une idée, il y a environ 8 foyers saint-martinois qui sont en capacité, en tout cas qui ont officiellement fait acte de candidature pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Nous transmettons tout cela en préfecture des Landes. Et effectivement, une famille est là depuis quelques jours. Alors on bataille pas mal, hein, parce que on est encore quand même sur les premiers jours, notamment pour la scolarité de ces enfants. J'étais encore pendant plus d'une heure tout à l'heure au collège. La bonne nouvelle, c'est que dans les 48 heures à venir, c'est-à-dire sûrement mardi, les deux enfants vont être scolarisés sur Saint-Martin à l'école Jules Ferry du quartier 9 et au collège François Truffaut. Donc voilà, donc c'est un moment particulier pour eux, on le voit bien, hein, c'est assez touchant d'échanger avec eux et de voir des situations qui sont forcément toutes différentes, mais qui sont très très marquantes. Considérant que tout le monde est désormais invité à se mobiliser en apportant une aide financière qui permettra au soutien humanitaire le plus précis possible, tant aux réfugiés qu'à ceux qui sont restés sur place, considérant qu'à ce titre, la commune a choisi d'apporter son soutien financier à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés pour un montant de 1000 euros. Donc je vous propose d'accorder une aide exceptionnelle de 1000 euros pour venir en aide aux populations touchées et de préciser que ces dépenses seront prélevées sur l'article 6745. Je précise que l'aide financière de la commune ne s'arrête pas là. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, cette famille d'Ukrainiens qui est sur la commune actuellement avait évidemment une problématique de mobilité, et c'est un point important pour eux car ils sont sur place. Donc un réseau de solidarité a fait que on a eu une voiture en prêt. Cette voiture n'était pas en état pour rouler. Et bien les services techniques ont d'une certaine manière réparé la voiture pour permettre à ces Ukrainiens d'avoir un véhicule. Évidemment, les pièces ont été financées par la collectivité. Donc voilà, est-ce qu'il y a des interventions par rapport à cette délibération ou est-ce qu'on passe au vote ?
L'aide de 1000 euros, bon, on n'a aucune certitude que ce sera pour l'Ukraine. On n'a pas moyen de dans la délibération de solliciter que ce soit pour l'Ukraine.
Non, justement, c'est une volonté de ma part de vous proposer d'apporter un soutien financier à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Oui, non, mais ça, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris.
Vous avez bien compris donc que c'est dans l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés aide effectivement, évidemment, aujourd'hui fortement les Ukrainiens, mais pas que les Ukrainiens.
D'accord.
Bon. Voilà. Donc c'est la délibération qui vous est proposée. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie pour ce geste nécessaire. Avant de se quitter, d'abord les décisions. Une seule décision a été prise le 10 février 2022 par moi-même pour la consultation organisée pour une mission d'accompagnement à la détermination d'une stratégie financière. Bon, assez classiquement, c'est un cabinet financier qui va nous aider sur des points précis, à la fois sur le fonctionnement, sur l'investissement. Et c'est le cabinet stratégie locale qui est un cabinet, on va dire, plus que classique dans les accompagnements des collectivités locales d'Aquitaine. Alors, point très important. En ce moment, la mairie et les services municipaux ont des difficultés dans les boîtes mail de certains acteurs, notamment les boîtes mail Gmail, La Poste et Neuf. Donc voilà, si vous êtes concerné par ces trois boîtes mail, des courriels peuvent ne pas arriver, même si l'expéditeur les a réellement envoyés. Donc on continue les vérifications. Pour tout vous dire, même demain, on a une intervention, un samedi matin, vous voyez, il y a une intervention supplémentaire pour pallier à cette problématique. Donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour vérifier certains envois. Vous dire aussi que, alors, à la limite, on va s'économiser justement l'envoi d'un mail. Je vous propose d'envoyer un mail au secrétariat des élus pour préciser quel choix dans la demi-journée du 10 et 24 avril vous préférez, c'est-à-dire sur la tenue des bureaux de vote. Est-ce que vous préférez le matin, 8h-13h, ou est-ce que vous préférez l'après-midi, 13h-18h? C'est toujours pareil, on fera au mieux hein, pour combler tout le monde, ça sera peut-être pas possible, mais en tout cas, voilà, ça serait bien d'envoyer chacun vos disponibilités. Vous pouvez aussi préciser que vous n'avez pas de préférence, hein. C'est encore mieux pour ceux qui font les tableaux derrière. Et d'ailleurs, je commence les tableaux ce lundi avec la secrétaire des élus. Et le prochain conseil municipal, pour l'instant, est fixé au jeudi 7 avril 18h30. Je dis pour l'instant parce que ce conseil municipal de ce soir devait se dérouler la semaine dernière, le jeudi 10. Après, vous savez qu'avec les périodes de budget, on a quand même des relations étroites avec la trésorerie et on est aussi à l'écoute aussi des rythmes de la trésorerie et de nos rythmes internes. Donc pour l'instant, c'est le 7 avril 2022. D'ailleurs, j'en profite, vous aurez une confirmation par mail, mais je veux remettre au goût du jour une tradition qui fait que le conseil municipal et le service finance et le directeur général des services dînent ensemble le soir du vote du budget. Je vous propose à l'ensemble du conseil municipal, alors attention, hein, chacun se paye son repas, hein, voilà, hein, c'est pas la mairie qui va faire cadeau, on n'a pas les moyens.
Voilà, c'est pas le budget, il est hors de question, mais par contre c'est un moment convivial après le budget. Je trouve qu'une fois par an que le budget, que le conseil municipal dîne ensemble, c'est une bonne chose. On travaille régulièrement ensemble, c'est important qu'on ait ce moment de convivialité. Voilà, réservez votre soirée. Merci à tous, passez une bonne soirée, un bon week-end. Demain matin, carnaval sur la place Jean Rameau, cérémonie aux morts, au monument aux morts, pour moi, mais bon, malheureusement, c'est aussi le cas à 11h30. Et ce soir, pour ceux qui sont intéressés, concert à la salle Camiade de Laura Etchegoyen. Bonne soirée.